RCF.
Amis auditeurs, auditrices du Berry se raconte, avec Agora Défense et la vie militaire dans le Berry et le Cher. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons M. Borderieux, ancien cadre dirigeant de l'entreprise Nexter, membre actif et dynamique de l'association Les Amis du Patrimoine de l'Armement de Bourges. Bonjour M. Borderieux.
Bonjour.
Le thème de notre émission sera l'évocation de la vie de Louis Bilan, 1874-1944, industriel de l'armement qui a marqué notre département par son dynamisme d'entrepreneur et de grand patriote résistant. Monsieur Borderieux, qui est Louis Bilan, sa jeunesse, sa formation? Avez-vous quelques éléments sur Louis Bilan?
Alors j'ai quelques éléments, donc c'était Louis Léon Bilan, hein, c'était le fils de Charles Bilan, qui était un artisan mécanicien de précision. Et Louis, donc, comme vous avez dit, il est né le 18 juin 1874, donc dans le 13e arrondissement de Paris. Bon, j'ai pas beaucoup d'éléments sur sa jeunesse, mais côté formation, il devient ingénieur mécanicien, probablement pour succéder à son père, qui possède une petite entreprise de compas, de matériel de précision. Et il est installé donc à Paris, au passage du Moulin des Prés. Alors techniquement, Louis Bilan, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est créatif, parce qu'il invente diverses machines, dont il dépose des brevets dès 1905, dans divers domaines, aussi bien pour le travail du verre que pour le matériel chirurgical, mais également sur des concepts de machines spéciales.
N'est-il pas aussi l'inventeur de la célèbre grenade P1, mais surtout de son allumeur?
Ben oui, disons, avec la guerre, ses compétences d'ingénieur mécanicien et ses probables relations, parce que là on n'est pas très très sûr encore, mais de relations avec les militaires du génie, ça intéresse au plus haut point l'armée, qui cherche d'urgence à s'approvisionner en grenades modernes. En effet, au début du conflit, les grenades qui existent, c'est plutôt des pétards percutants un peu artisanaux, des grenades aussi qu'il est capable de renvoyer directement à leur expéditeur. Donc c'est en mai 1915 que les soldats français reçoivent cette nouvelle grenade P1, qui veut dire percutante numéro 1, qui a été conçue en France par Louis Bilan, et puis en collaboration avec l'arme du génie. D'ailleurs, un brevet il a été déposé sur cette grenade, autant en France qu'aux États-Unis. Alors cette grenade P1, elle est aussi appelée grenade poire, parce qu'elle ressemble vraiment au niveau de la forme à une poire. En revanche, le bouchon allumeur, qui doit faire détonner la grenade, hein, cette grenade poire, n'est pas très fiable et à l'origine de nombreux accidents. Donc, évidemment, il faut remédier à l'affaire. Et donc, pour soulager le fantassin, pour doser donc la percussion et d'éviter les accidents, on adopte en 1916 un bouchon allumeur qui est équipé donc d'un levier de sécurité, qui est donc inventé par Louis Bilan, hein, et qui ne déclenche l'armement que lorsque la grenade quitte la main du lanceur. Alors, ce bouchon qui dit bouchon automatique, c'est le premier bouchon dit automatique. Il est de type 1916B, fait par Louis Bilan. Et là, il se montre beaucoup plus fiable.
Ah, très bien. Et merci pour les explications ultra précises. On reconnaît le professionnel. Alors, justement, continuons sur Louis Bilan. Octobre 1915, site de Tolbiac, à Paris, destruction de l'usine de fabrication de grenades. 40 morts. Louis Bilan vient s'installer à Bourges. Très précisément, auprès d'Oulet, au Prado. Ma question est simple, pourquoi Bourges?
Alors d'abord, je vais vous répondre à la question concernant Tolbiac. Donc dès 1915, hein, on demande à Louis Bilan donc d'entreprendre une fabrication en grand de sa grenade poire, de sa grenade P1. Et Louis Bilan demande à occuper le terrain qui était juste à côté de l'atelier de son père, de la famille, au 174 de la rue Tolbiac. Bon, avec les amis du génie, là, ses amis du génie. Alors, faut dire que la 174 rue de Tolbiac, c'est juste à côté de la gare d'Austerlitz. C'est pas, c'est quand même vraiment dans la ville de Paris.
En plein centre.
En plein centre. Et donc, rapidement, l'état-major lui demande toujours plus de munitions. Et puis, il y a déjà une première alerte. C'est en juillet 1915, où il y a déjà eu un accident où il y a un mort et 5 blessés. Mais bon, ça ralentit pas les cadences parce qu'il faut beaucoup de production pour la guerre. Et puis donc c'est un mercredi, c'est le 20 octobre 1915. Donc au lieu qu'il y ait 5000 grenades, il y en avait au moins 15 000, hein, rue de Tolbiac, peut-être même plus. Puis là, il y a une terrible explosion qui se produit, hein, dans l'après-midi. Et là, ça fait 43 morts et entre 60 et 100 blessés. Alors 100 blessés, c'est mort principalement des femmes. Le président de la République, Raymond Poincaré, et puis son ministre de l'Intérieur, donc Louis Malvy, ils se rendront sur les lieux. Donc évidemment, comme c'était en pleine ville, hein, suite à cet accident, l'armée dit à Louis Bilan de continuer son activité, mais plus à Paris, hein, terminé. Donc pourquoi Bourges ? Bourges, c'était d'abord suffisamment éloigné du front. Et puis, il y avait beaucoup de spécialistes pyrotechniques, parce qu'il y avait l'usine de production, hein, au niveau qui était l'ECP, l'école centrale de pyrotechnie. Il a sûrement été aidé par des aides techniques locales, hein, qu'il avait déjà sûrement aidé pour la mise au point de sa grenade et de son bouchon allumeur. Donc là, il arrive fin 1915 à Bourges et il arrive au Prado. Il y avait une petite usine de celluloïdes là, qui avait été montée quelques temps avant mais qui ne fonctionnait pas. Donc il se met à la place de cette usine de celluloïdes et donc il se met au Prado. Donc le Prado, comme vous avez dit, c'est le Prédoulé, c'est l'endroit exact où il y a les cinémas CGR et la patinoire qu'il y a en ce moment. Donc c'est ainsi que l'activité reprend au Prado à Bourges, des grenades, dès 1916, mais là, dans la capitale du Berry, et plus à Paris.
L'entreprise Bilan ne va pas rester sur Bourges. Justement, pourquoi est-ce que l'entreprise de Louis Bilan déménage-t-elle, justement, à la Chapelle-Saint-Ursin, et s'installe dans les carrières de mines de fer ? Alors je pense que vous allez un petit peu nous rappeler tout ce site de la Chapelle-Saint-Ursin.
Alors, évidemment, d'abord, qu'est-ce qui se passe juste après la guerre, hein, juste après l'armistice, hein, les commandes d'armement cessent, et puis, beaucoup de chômage, hein, au niveau des ouvriers, et Louis Bilan lui diverse son activité dans les besoins du secteur civil. On a retrouvé ça parce qu'on a retrouvé un brevet qui concerne des couverts de tables en métal diacéré. Hein. Vous savez que les couverts avant étaient faits en fer blanc. Ouais. Bon, il fait ça un petit peu, puis après il veut reprendre quand même ses activités d'armement. Sauf que le maire de Bourges, dans les années 1930, lui dit stop, là les habitations de Bourges gagnent du terrain de plus en plus vers le Prado, hein, la ville de Bourges s'agrandit et on vient presque à encercler le Prado. Donc il dit faut que tu t'en ailles. Faut que tu t'en ailles de là. Donc c'est là qu'il décide d'acheter un terrain de 300 hectares à la chapelle, à la chapelle Saint-Ursin. Alors pour y mettre simplement la pyrotechnie là-bas, la partie mécanique restera, elle, au Prado. C'était un véritable gruyère. Il y avait eu une activité minière pendant le 19e siècle très très importante. Il y avait l'exploitation du minerai de fer, hein, qui avait fait, c'était suite à l'avènement donc, de l'industrialisation, hein, en France en général et dans le Cher en particulier. Et donc l'exploitation du minerai de fer prend vraiment son essor. Et les minières donc, de La Chapelle-Saint-Ursin et de Mortomier font partie du groupe des minières de Bourges. Alors ces minières qui renferment une grande richesse de minerais dans le département vont être vont servir à qui ? Vont servir à alimenter les usines donc de Commentry, de Montluçon, de Vierzon, de Grosouvre, de Meillan, d'Ivoilpré. Et la production est importante, hein, elle est au moins de 40 000 tonnes par an. Entre La Chapelle-Saint-Ursin, évidemment, et Villeneuve-sur-Cher, l'endroit, parce que la quantité de minerais est transportée par péniche sur le canal de Berry. Donc, dans le tronçon Bourges-Montluçon, il avait été mis en service donc, en 1835. Ils acheminent là le minerai, hein, par des petits wagonnets tractés par des chevaux, jusqu'au canal, jusqu'à Pont-Vert, sur la commune de Marmagne.
Ah, très bien!
Après 1860, bon, les péniches ils seront remplacés un petit peu par le chemin de fer, hein, qui transportera ce minerai. Et puis fin 1886, eh bien la minière ferme. Pour en revenir à Louis Bilan, il a 300 hectares là, mais c'est du gruyère.
Alors je vous pose une question, hein, oui. Est-ce que ce sont des mines traditionnelles avec des galeries ou ce sont des mines à ciel ouvert ?
Alors pour la plupart, il y a à ciel ouvert et c'est des galeries, c'est des trous en fait qu'ils font. Hein,
D'accord. Il y a une ligne tirée par des chevaux qui va de La Chapelle-Saint-Ursin jusqu'à Pont-Vert.
Donc là, il rebouche les trous, évidemment, à l'endroit où, oui, il veut refaire son exploitation. Et puis, donc, il construit des bâtiments, hein, toutes les infrastructures qui sont à faire pour faire un atelier donc, de charge chargement et de dépôt d'explosifs. Donc, ces 300 hectares sont sur la commune et de la chapelle Saint-Ursanne, Mortomier. 20% la chapelle, oui. 80% Mortomier. Et voilà, donc il reprend à partir, là, il reçoit le 10 octobre 1933 l'autorisation d'exploitation pour pouvoir donc recommencer sur ce site des munitions et donc, des éléments de munitions.
Donc, il va y construire des hangars, des bâtiments pour la production.
Exactement.
Ah oui. Alors, je suppose que l'industrie d'armement donc est, disons, beaucoup moins importante, bien sûr, que pendant la Première Guerre mondiale. Mais on se prépare quand même, malheureusement, à cette Seconde Guerre mondiale qui, comme nous le savons, se passe mal pour la France. En effet, la défaite de mai-juin 1940 de notre pays entraîne l'occupation de notre territoire par les troupes allemandes. Alors, ma question... Que devient l'entreprise de Louis Billon ?
Pour vous dire dans quoi il s'était spécialisé, c'était principalement spécialisé dans le chargement d'explosifs et les bombes d'aviation, plus précisément. Et puis ça marchait, c'est bien, donc jusqu'à la guerre. La guerre arrive. Les Allemands, ils arrivent donc sur le site de la chapelle Saint-Ursanne en juin 1940. Et puis donc Louis Billon et son beau-frère, qui est aussi son directeur de l'usine, ils veulent donc fermer l'usine. Ils ne veulent pas des Allemands ici. Mais par contre, ça ne se passe pas comme ils avaient prévu. Ils sont obligés par l'occupant de continuer la fabrication des munitions et donc des grenades sous le contrôle allemand.
Alors justement, ils sont combien d'ouvriers à peu près à cette époque ?
Alors à cette époque, ils sont de l'ordre de 500 personnes sur le site. Donc Louis Billon et Pierre Lebrun, ils entrent, quand je dis 500 à 600, c'est avec le Prado compris.
Avec le Prado.
Oui. Oui.
Pareil, main d'œuvre féminine, mixte un peu.
Mixte, il y a hommes et femmes, il y a pas mal d'hommes parce que, je vous dis, à la chapelle, c'est beaucoup de grosses bombes d'aviation. Donc là, c'est pas que des petits éléments comme les grenades, c'est plutôt les femmes et les gros.
Les hommes.
Voilà. Donc Louis et Pierre Lebrun, ils sont contraints, si on peut dire, de rentrer un peu en résistance. Et ce qu'ils font, ils font plusieurs choses. Hein. Ils empêchent les jeunes qui doivent aller au STO, c'est vrai, le service du travail obligatoire.
Oui.
Donc, ils les prennent pour les embaucher, au lieu qu'ils aillent en Allemagne, hein, vaut mieux travailler chez eux. Bon, les cadences sont pas ce que voudraient les Allemands. En plus, ils font passer des jeunes en zone libre. Et puis, la productivité, la qualité des produits qu'ils font, c'est pas terrible, exprès, évidemment. Comme exemple, c'est qu'ils mettent moins de poudre propulsive dans les douilles. Ce qui fait que, évidemment, les obus, ils vont beaucoup moins loin que prévu. Et ça énerve beaucoup les Allemands. Ça énerve tellement les Allemands qu'en 1944, là, au moment où ils sont vraiment le plus nerveux, le 17 mai 1944, donc Louis Billon et Pierre Lebrun, ils sont arrêtés à l'usine du Prado. Ils étaient au Prado ce jour-là. Donc, vous voyez, trois semaines avant le 6 juin 1944, avant la Normandie, ils sont incarcérés au Bordieu à Bourges et puis sont déportés au camp de Royallieu à Compiègne. Alors Louis Billon, malheureusement, il décède de la suite de mauvais traitements dont il est l'objet. Il meurt le 24 août 1944. 15 jours seulement, vous voyez, avant la libération de Bourges, il avait 70 ans, et son beau-frère, donc Pierre Lebrun, lui, il est déporté au camp de Neuengamme, c'est vers Hambourg, ça, et il meurt le 20 novembre 1944 dans une chambre à gaz. Alors bon, il a été quand même rendu hommage beaucoup à Louis Billon,
oui.
Il était, dès 1950, il est partout, il était mis, qu'il était donc mort pour la France, et puis en 2002, en septembre 2002, il y a plusieurs associations de la résistance qui ont fait ériger par la ville de Bourges, et pour leur mémoire, ils ont fait ériger là-bas au Prado une stèle qui est juste donc à côté de la patinoire et qui comporte cette mention « mort pour la France ». Et il faut savoir aussi que Louis Billon a trois noms de rue dans le coin. Il y en a une qui est donc à la chapelle Saint-Ursin,
oui.
Un nom de rue aussi à Bourges, dans le quartier du Moulon, et puis un autre à Villabon, c'était son lieu de résidence.
Merci Monsieur Borderieux pour cette évocation passionnante de la vie de Louis Billon, entrepreneur privé, au service de son pays, au courage et à la témérité exemplaire. Mais ce n'est qu'un début. Dans une prochaine émission, nous allons poursuivre l'histoire des établissements Billon. En effet, c'est sous cette appellation que les plus anciens se souviennent. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité. Bonne semaine et à très bientôt avec votre émission Le Berry se raconte avec Agora Défense et l'histoire militaire du Berry et du Cher. Merci.